Bonjour à tous et toutes. Merci à Bernard pour cette introduction. Je pensais finir par ça en fait. Mais donc, comme tu le dis, c'est vrai que on parlait des histoires personnelles qui nous amènent à des projets ou à un investissement au départ personnel et qui se collectivisent très fort par la suite. C'est vrai que mon histoire personnelle, elle est un petit peu à la base de ça. Je viens d'une famille avec un papa communiste et puis une maman chrétienne très pratiquante. Donc le grand écart au niveau des valeurs dans la famille, ça a été toujours quelque chose de très fort et toujours quelque chose d'exprimé et quelque chose de primordial dans la relation aux autres. Et finalement, comme le dit Bernard à juste titre, il y a énormément de choses qui nous rapprochent. On pourrait dire que toutes nos valeurs sont proches. Donc, peu importe en fait la religion de nos élèves, la religion qu'on pratique, c'est très important, vu la multiculturalité dans nos écoles, d'avoir aussi une approche inclusive. Alors, je suis ici pour vous parler d'un projet qu'on mène depuis 10 ans dans notre école, qui est un petit peu mis à mal comme le reste cette année et la fin d'année scolaire précédente. Mais venir vous en parler ici, ça a été une occasion pour moi de me poser des questions, de me poser tout court d'ailleurs par rapport à ces projets et de se dire qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est l'équilibre qui fait que ça fonctionne ce projet depuis 10 ans. Et donc je vais commencer par l'aspect peut-être un peu organisationnel des choses, comme ça répond à une question pratico-pratique puisqu'on est essentiellement des profs ici. Et puis, Bernard m'avait demandé effectivement d'insister sur ce qui fait que ça marche, ce projet. Et je clôturerai peut-être par un troisième temps dans cette présentation par l'idée qu'il y a toute une série de questions qui se sont soulevées au fur et à mesure du temps. Et finalement, la pause qui s'impose, c'est pas mal. Ça crée le manque et ça fait aussi peut-être... ça donne l'occasion du sens, de se poser la question du sens du projet. Donc je vous explique assez brièvement l'idée de départ du projet. Donc en 2009-2010, je suis dans l'école depuis 2 ans et il y a le terrible tremblement de terre en Haïti. Je suis une toute jeune maman avec les nerfs à fleur de peau. Et je regarde un envoyé spécial un jeudi soir et je pleure quasi toute la nuit, je pense. Le lendemain, j'ai des yeux gros, rouges, et je me dirige vers le bureau de la direction en disant, finalement, je pourrais faire un don de 50 euros ou de 100 euros à l'UNICEF, mais ça n'a pas de sens. Ça va être noyé dans une masse d'argent. Et notre école, on est sur notre site 1400. Au total, c'est une énorme école, une énorme structure avec 2500 élèves. Si chaque élève met 1 euro, en fait, ça va faire énormément de choses. Et si chaque élève prend conscience qu'il peut faire quelque chose, ça peut créer un effet d'entraînement sur le long terme. Donc on part d'une personne à un moment donné avec une histoire, et puis très vite, en fait, dans la discussion avec la direction, on en arrive à se dire, oui, mais il existe déjà des choses dans l'école. C'est bien ton idée de faire quelque chose pour ce projet-là, mais il y a déjà d'autres projets. Et donc... le directeur de l'époque m'explique que ça va être compliqué de venir additionner un autre projet dans l'école. Et ça, c'est le point de départ d'une réflexion qui se mène depuis 10 ans. Se poser la question d'un projet qui est mené dans un cadre bien précis pour quelque chose qu'on va essayer d'aider, qu'on va placer à côté d'un autre projet pour lequel on va créer un effet d'entraînement et une dynamique collective. Et donc très très vite, je pense que l'influence familiale tant d'un côté que de l'autre va jouer sur l'idée du collectif qui va s'imposer, mais qui n'est pas facile. Parce que quand on arrive avec une idée bien précise et qu'il y a déjà des choses qui se font dans l'école, il faut savoir ménager les susceptibilités, je pense, et ne pas donner l'impression de phagocyter les autres projets, tout comme ne pas être phagocyté par les autres projets, se dire... qu'on peut créer un effet d'entraînement ensemble. Et ça a été vraiment un leitmotiv pour lequel je me bats depuis 10 ans, qui n'est pas simple tout le temps, parce que de temps en temps, il y a des personnalités ou des projets qui essayent de prendre le dessus, Et on essaye toujours de ramener l'idée du collectif et de travailler ensemble et qui sera plus porteur. Alors, très concrètement, puisque je vous ai dit commencer par le concret, très concrètement, l'idée de départ, mon idée de départ le vendredi matin quand je suis allée voir les deux directions de notre école, c'était d'organiser une semaine pendant laquelle on allait pouvoir se mobiliser tous les temps de midi. Donc on a la chance chez nous d'avoir 2 heures de cours sur le temps de midi, ce qui permet d'avoir un long temps de midi. Et donc les élèves sont dispensés de cours 1 heure sur 2, donc ça permet d'avoir 1 heure qui tombe de cours, puisque c'est un peu obsessionnel pour les profs, les heures de cours qui tombent, et de pouvoir attribuer 7 heures en plus du temps de midi sur des activités que les élèves vont mener concrètement. Alors, ça c'est l'idée de départ qui va s'imposer petit à petit. Je pense que pendant 2 mois, j'ai dû passer 3 fois par semaine à la direction pour essayer d'obtenir ce temps de midi. C'était très compliqué parce que les profs tiennent à leurs heures de cours. On a d'office été rechercher des petites choses qui s'organisaient, qui vivotaient un peu dans l'école, le parrainage du cross, l'action bol de riz qui est assez classique dans les écoles. Et on s'est dit, il y a toute une série de choses qu'on pourrait faire pour globaliser ces projets plutôt qu'éparpiller. Moi, je travaille sur le parrainage du cross pour tel petit projet. Moi, je travaille sur le bol de riz pour tel petit projet. Est-ce qu'on n'identifierait pas des projets chaque année qui nous permettraient ensuite de travailler ensemble et donc de créer vraiment une énergie positive. Et à force de réunions, de discussions, ça s'est imposé en mode d'organisation, non sans difficulté encore une fois, mais avec plus ou moins de réussite d'année en année. Le bilan humain gonfle, le bilan financier gonfle, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Inévitablement, ça mobilise aussi les élèves, ça mobilise les profs d'avoir des résultats financiers. Et alors très concrètement, je vous ai mis quelques petites photos pour que vous puissiez vous rendre compte de la dynamique. En fait, on a commencé à travailler de façon un peu originale avec les classes difficiles. Vous voyez, ces classes plus compliquées, qui dès qu'elles peuvent ne pas avoir cours vraiment classique, sautent sur la balle, et qui ont eu une idée d'organiser des tournois sportifs. Chez nous, c'est une école sportive, il y a une option sport très forte. Et donc l'idée est venue d'eux, si on organisait des tournois sportifs. Et donc on a mis ça en place avec eux, ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation en amont, parce que chaque sport proposé nécessite des équipes encadrantes, nécessite des élèves encadrants, des groupes d'élèves, et puis nécessite finalement le dessous des cartes des tournois sportifs, c'est-à-dire des inscriptions, des poules à organiser, etc. Mais ça a permis à ces élèves qui sont un petit peu étiquetés de difficiles, de s'illustrer positivement. Et rien que ça, c'est une magnifique réussite, quoi. Ils y tiennent. Chaque année, ce sont les techniques sport qui organisent les tournois sportifs. Et au-delà de ça, ces techniques sport qui organisent les tournois sportifs s'investissent vraiment sur la longévité. Chaque année, c'est eux qui reviennent. Tiens, quand est-ce qu'on lance? Moi, j'ai telle idée de sport. Oh, cette année, on n'a pas envie de faire ça. On voudrait plutôt faire ça, donc on en vient à proposer des choses un peu particulières comme le baby-foot, un tournoi de baby-foot, mais peu importe en fait. Les idées viennent d'eux, on les accueille avec leurs envies, avec le côté réalisable des choses aussi. Il y a des choses qui ne sont pas réalisables, faire venir une friterie dans la cour de récré, ce n'est pas possible. Pourtant chaque année c'est une chose qu'ils proposent parce que ça pourrait rapporter beaucoup d'argent. Mais globalement, les idées de départ viennent des élèves et des profs qui les appuient. Et donc, on en arrive à faire des choses complètement... on en arrive à des couloirs qui sont bariolés d'affiches, des élèves qui cuisinent dans tous les sens à l'école. On est toujours très content que l'AFSCA ne débarque pas cette semaine-là, il faut vous l'avouer, parce que c'est vrai qu'on essaye de faire les choses au mieux, ça n'est pas toujours compliqué, pas toujours simple. Ils ont proposé des choses complètement variées. Par exemple, il y avait une vieille serre complètement à l'abandon dans notre école, dans un jardin laissé lui aussi à l'abandon. Ils ont rénové la serre avec un papa qui est venu travailler bénévolement, qui a fourni des vitres, etc. Donc c'est un projet au départ sportif qui est important, ce sport, parce que ça mobilise les foules. Vous voyez, ça crée de l'ambiance sur le site. Et les élèves ne sont pas en pause pour ne rien faire et juste manger des gâteaux. Ça, c'est vraiment très important. Il y a des activités qu'on accepte juste pour l'ambiance. Les battles de danse, par exemple, sur la cour de récré. C'est une activité qui ne rapporte rien, soyons francs, qui est plus ludique que porteuse de sens, mais qui participe à l'ambiance festive de cette semaine-là et qui, mise à côté des autres activités, en fait, participe au projet. Et donc, pendant toute une semaine, il y a des profs qui se mobilisent pour nettoyer des voitures, c'est pas la place la plus sympathique, mais voilà, ça vient des élèves, eux font ça avec leur mouvement de jeunesse, donc ils viennent avec des propositions très concrètes. Et alors, ce qui est très important pour eux, c'est chaque fois d'être identifiés comme une classe. C'est notre classe qui portons ce projet. Ça se voyait très bien sur les affiches précédentes. Les 5 TD vous proposent ceci, les 5 G vous proposent cela. Donc, c'est vraiment chaque fois des petits groupes classes, pas nécessairement toute la classe, mais un noyau dur de la classe, qui réussit toujours à aller trouver un prof, même parmi les plus improbables, parfois les détracteurs de la première heure, qui ne voulaient pas perdre d'heure de cours, qui continuent à aller le donner, alors que le temps de midi foisonnait d'activités, qui se retrouvent embrigadés par leur classe. Et donc, finalement, les profs mobilisent les classes mobilisent les profs. Et là, vous parliez tout à l'heure d'énergie qui passe. C'est vraiment une énergie qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça demande beaucoup de travail. Mais ce qu'on reçoit en retour est énorme en termes d'énergie positive, en fait. Tant cette semaine-là que dans les semaines précédentes, que dès le début septembre, en fait. Dites, au fait, cette année, nous, pour la semaine solidaire, sachez que... Et déjà, ils y pensent, en fait. C'est devenu un moment important de leur scolarité dans notre école. Oui, bien sûr. Ce qui se passe chez nous, c'est qu'on a 3 sites, et donc on a un site avec les premières, deuxièmes. Eux mènent un projet essentiellement centré sur le parrainage du cross. Et là, c'est la grosse artillerie, ils sont petits, hein, et donc ils sont mobilisés par le fait d'aller sonner chez leurs voisins pour aller chercher de l'argent. Nous, on a les 3, 4, 5, 6 GTTT, et puis il y a un autre site avec des TQ et des professionnels. L'essentiel du projet se déroule sur le site des TTGT. Au départ, le noyau, c'est vraiment une dizaine de classes sur les 50 qui ont porté le projet. Et on va dire 3/4 de classes du technique, 1/4 du général, qui aiment consommer, mais qui n'aimaient pas trop s'investir. Enfin, voilà, les cours sont importants, les profs tiennent ce discours, donc perdre des heures de cours au mois de mai, c'est embêtant. Aujourd'hui, ça s'est quasi inversé, je dirais. Les élèves du général et les élèves du technique, d'une année à l'autre, sont équilibrés dans l'organisation. Et les équipes de profs aussi. Non, non. C'est vraiment, on part toujours d'une équipe de noyaux durs de profs. Au départ, on était une dizaine autour de la table. Maintenant, quand il y a une réunion où tout le monde vient, on est 40 ou 50. On est beaucoup à l'école. Hein. Donc, c'est une grosse école. Ça peut paraître énorme, parce que dans certaines écoles, il y a 40 profs, mais chez nous, c'est, je vais dire, une vingtaine de pourcents de profs qui participent, je dirais ça, qui sont sur la cour, qui viennent acheter, c'est aussi important, hein, les petits gâteaux, etc. Et je pense quelque chose comme 10 ou 15 classes qui participent chaque année. Et... globalement, ce sont les élèves de 4e et 5e qui portent le projet. Les 6e sont un petit peu dehors, ils ont déjà un pied dehors. Les 3e sont tout petits, arrivent sur le site, ne savent pas trop, mais finalement, ils entendent les frères et sœurs, et donc maintenant, ça contamine les 3e. Donc, ça, c'est devenu en fait un moment important de l'année. Voilà, comme ça, je réponds à votre question, j'espère. Je me suis posé la question quand Bernard m'a demandé de venir ici. On a évoqué... les clés de la réussite, qu'est-ce qui fait que ça marche? Je pense que la mobilisation des équipes, ça c'est vraiment quelque chose qui est fédérateur dans le projet, avec toutes les différences des élèves et des professeurs. Il y a des profs, je les ai dans ma tête, je ne vais pas les citer, je ne les citerai jamais à personne, c'est l'avantage d'avoir le côté organisationnel depuis 10 ans, qui ne travaillent que sur des projets qui rapportent de l'argent. Parce que moi je ne m'investis pas pour que ça rapporte 50 euros, hein. Et donc, je sais dans l'équipe de profs qu'il y a des projets qui me parlent moins. Faire des brochettes de bonbons Haribo, voilà. Mais les bonbons Haribo, ça rapporte de l'argent. Et donc, pour certains profs et pour certains élèves, l'important, c'est le bilan financier. Pour d'autres, les tournois sportifs, par exemple, c'est énormément d'organisation. Les élèves payent 2 euros pour faire du sport tous les temps de midi. Alors au départ, les détracteurs pensaient que les élèves n'allaient pas payer pour faire du sport alors qu'ils auraient pu simplement s'asseoir dans la pelouse et attendre que le temps de midi passe avec un petit gâteau. Et en fait, aujourd'hui, on est quasi à un tiers des élèves qui participent aux tournois sportifs. La première année, on avait 1000 élèves sur 1200 qui participaient. Aujourd'hui, on est à 300 ou 400 inscrits d'une année à l'autre sur les tournois sportifs, donc des élèves qui pourraient ne rien faire et qui payent pour faire quelque chose. Donc rien que ça, je trouve que c'est une énergie assez merveilleuse. Et là, les profs qui organisent ça, ils organisent ça pour l'ambiance et pour la mobilisation. Les mêmes profs qui organisent ça organisent la présence du stand Oxfam pour l'échange de vêtements, qui ne rapporte rien, financièrement parlant, mais qui, en termes d'ambiance et de valeur, participe au projet. Et donc, quand j'essaye de faire un peu le bilan de ce qui marche, il y a d'une part l'idée vraiment inclusive, qui est très importante, l'idée de ne pas faire se concurrencer les projets, l'idée de la répétition dans l'année, on commence avec le parrainage du cross, on fait le bol de riz, il y a un concert solidaire ici, et puis arrive la semaine solidaire, et ça c'est la dernière semaine avant la ligne droite des examens, ça se fait toujours la semaine des portes ouvertes de l'école, et c'est fini, après on travaille, et donc c'est la dernière semaine où en amont on peut s'être mobilisé pour organiser les projets, et vraiment la mobilisation des équipes, tant des professeurs que des élèves au fait. Et là, il y a une énergie énorme, enfin, vous la connaissez dans vos salles des profs, il y a une énergie énorme à condition qu'on le joue collectif et à condition qu'on soit inclusif, ça c'est vraiment important, parce qu'au départ, on ne va pas se cacher, c'est un petit groupe de profs qui s'entendent bien, qui portent ce projet. Et puis petit à petit, il y a d'autres profs qui se sont rajoutés, et on sait comment ça se passe à la salle des profs, ça peut être très serein, très ouvert, mais ça peut être aussi très méfiant et une somme d'individus. Et je pense que la force ici de ce projet, c'est de jalonner ce projet de toute une série de petites réunions où tout le monde est invité. On choisit les projets qu'on va subventionner ensemble dès le mois de septembre. Et qui a envie de faire quoi? Qui sent quelle classe? Avec quelle classe vous auriez envie de vous investir? Et c'est ouvert à tout le monde, avec des profs avec lesquels on s'entend très bien et puis des profs avec lesquels on n'a parfois jamais discuté. Et ça, c'est très très riche. Le côté inclusif, au départ, fédère très très fort la salle des profs autour de ce projet, avec le temps d'autant plus, je dirais. Voilà. Alors ensuite, j'ai réfléchi aussi à la demande de Bernard, à ce qui fait que ça fonctionne. Je pense que quand on porte ce genre de projet, il faut une ou quelques personnes de référence auxquelles les gens s'identifient. Si j'ai besoin d'une table pour mettre mes crêpes, à qui je demande? Et cette personne de référence, ou ces personnes de référence, elles doivent faire un peu les tâches de l'ombre et ingrates, inévitablement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la casquette organisationnelle et qui sache que pour les rallonges, il faut demander aux ouvriers de les déposer à tel endroit, que pour les armoires chauffantes, pour les crocs, il faut demander autant de jours à l'avance à la cuisine, etc. Il y a cette part ingrate des tâches qu'il ne faut pas sous-estimer, mais qui est aussi indispensable. Et donc je pense que sur un court terme, une personne peut prendre ça toute seule, mais très vite la nécessité de se répartir et de déléguer cette tâche, elle est très importante, parce que sinon ça épuise d'être dans l'ombre, c'est pas très grave, mais d'entendre uniquement les mauvais côtés. J'avais demandé deux tables, j'en ai qu'une, tu te rends compte? Et où sont les rallonges qu'on nous avait promises? On nous les avait promises à midi moins 10, il est midi, elles ne sont toujours pas là. Enfin, ce sont des choses organisationnelles qui ne sont pas très sympathiques, et qui, portées par une seule personne, ça peut être lourd, mais si ça n'est pas porté par qui que ce soit, ça ne fonctionnera pas. Je prends par exemple le site des TQ dont on parlait tout à l'heure. Sur le site des TQ, essentiellement chez nous, qui sont les élèves? Ce sont des élèves qui étaient sur l'autre site avant, sur le site du général et du TT. Et au final, ces élèves ont vécu ce projet de semaine solidaire jusqu'à la troisième, quatrième. se retrouve sur l'autre site et là, il n'y a rien. Enfin non, il n'y a pas rien. Il y a plein de choses qui se passent, mais pas la semaine solidaire. Et donc, eux, ça leur manque. Et ça fait 5-6 ans qu'ils le demandent. Il y en a même qui nous apportent parfois leurs gâteaux à 10 heures à la grille pour qu'on les vende sur la cour de récré, sur le temps de midi. Donc, ils ont envie de participer, d'autant plus qu'il y a un internat. À l'internat, on parle du projet, et certains y sont inclus, d'autres pas. Et on a essayé de l'implanter sur le site des TQ plusieurs fois, et tant qu'on n'a pas eu une personne de référence qui s'est sentie portée par le projet, ça n'a pas jamais pris. Parce que les profs font plein d'autres choses, il y a d'autres activités, il y a d'autres choses à faire, il y a beaucoup de cours pratiques à organiser, donc c'est une autre dynamique. Et ça, ce n'est pas leur projet. Donc il faut vraiment, je pense, au départ, un noyau dur de gens qui organisent et de gens qui fédèrent. Par ailleurs, à un moment donné, on en est arrivé à se retrouver. Donc au départ, c'était très simple. Il y avait un projet à Haïti qu'on voulait subventionner. Il y a un autre projet très rapidement qui est arrivé, qui s'est déroulé à Madagascar. On a construit une école là-bas. Au départ, les projets étaient très limités. Mais vu ce que ça rapporte, parce qu'on arrive à des budgets qui avoisinent parfois les 15 000 euros sur une année, d'argent qui est récolté, très vite, ça se sait, et donc tout le monde vient avec son petit projet. Et donc, dans le choix des projets, on a pris l'habitude depuis 6 ans de se retrouver donc au mois de septembre et de décider collectivement des projets. Ce sont toujours des projets qui viennent des élèves, des parents d'élèves ou des profs, donc des projets directs, et on ne subventionne pas l'UNICEF. Parce que l'UNICEF, on dit aux élèves, il faut le faire, mais faites-le dans votre sphère privée. Parce que l'UNICEF, notre argent, on ne sait pas le suivre. Tandis qu'en sélectionnant des projets bien précis qui sont amenés par des élèves, des parents d'élèves ou des profs, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc financièrement, ça rapporte plus d'argent. Et en prime, il y a un retour. On sait ce qu'on a fait avec notre argent. Quand on est allé à Madagascar, par exemple, on a rapporté 12 000 euros. C'était le résultat des premières semaines solidaires, des 3 premières semaines solidaires qui ont eu lieu. Et au final, ces 12 000 euros ont servi concrètement à bâtir 3 classes. Et donc, on a pu, après, montrer les photos de avant, de après. Et je crois que ça, c'est aussi très important pour les élèves. C'est d'ailleurs eux qui nous disent où va notre argent, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que l'entièreté de notre argent arrive. C'est d'eux qu'aussi est venue l'idée, par exemple, de subventionner des projets locaux. Parce que, oui, moi, j'ai un ancrage un peu personnel en Afrique. Et donc, c'est vrai que d'y avoir étudié une partie de mon cursus de géographie, ça fait en sorte que je perçois peut-être plus que la moyenne des jeunes de nos classes l'urgence et la situation, par exemple, en matière de soins de santé, qui n'a aucune commune mesure avec ce qu'on peut décrire dans la presse en ce moment, avec ce qui se passe chez nous. Et donc j'avais tendance à toujours mettre des projets africains au cœur des choix qui allaient se porter pour nous. Et puis finalement, il y a des élèves qui vivent au quotidien des situations très compliquées et qui ont dit, bah oui, mais nous aussi, on connaît des gens dans le besoin chez nous. Et donc, on veille chaque année, dorénavant, et c'est vraiment quelque chose qui est institutionnalisé maintenant, à avoir un équilibre entre des projets internationaux et des projets locaux. Par exemple, le dépannage alimentaire de Soigny, qui a déjà profité plusieurs fois de notre soutien financier. L'idée, c'est qu'il y a des pauvres aussi chez nous, et les élèves nous l'ont rappelé, effectivement. Enfin, on le sait. Quand on a voyagé un peu, on sait que c'est sans aucune commune mesure, mais c'est quelque chose qui est leur quotidien. Et encore une fois, le choix des projets, je vais dire que c'est presque de la politique. Parce que quand un groupe de profs arrive avec un projet, se dire ce projet est un peu bof, c'est le cas de certains, et du coup, on le met de côté parce qu'il y en a d'autres qui tiennent plus la route intellectuellement, on pourrait le dire comme ça. Parfois, c'est contre-productif parce que ça veut dire qu'il y a 20 profs qui portaient ce projet, qui décident de ne plus participer du tout. Et donc, quand on fait le choix des projets, on veille à cet équilibre projets locaux et projets internationaux, mais aussi à l'idée que quand ça vient d'un groupe qui d'habitude n'arrive pas à se mobiliser, c'est parfois intéressant, pas pour le projet en tant que tel, mais pour la mobilisation générale. Donc on fait un petit peu de politique dans le sens positif du terme, quand on fait le choix des projets concertés avec les avis des uns et des autres. Effectivement, il y a parfois des avis qui se confrontent, mais c'est ça qui est intéressant aussi, de les accueillir avec de la différence et avec des centres d'intérêt divergents. Alors après 10 ans, après 10 ans d'existence, et vu la pause donc, qui s'est un petit peu imposée à nous, en préparant la discussion du jour, je me suis posé la question qui est récurrente depuis 2 ans. Ouais, cette semaine solidaire, elle s'essouffle un peu. C'est des choses qui me reviennent beaucoup. Ça s'essouffle parce que c'est devenu une habitude. Et donc, ça, c'est clair qu'il y a toute une série de choses qui se font dans vos écoles. Et vous savez que quand ça s'institutionnalise un peu, ça a tendance à être tellement acté qu'on n'en prend plus soin. Et donc, quelque part, on peut voir la situation actuelle Covid comme un désastre à plusieurs points. Mais je pense que pour des projets comme ça, ça fait du bien. C'est un peu comme l'école qui manque pendant 3 mois. Les jeunes qui sont revenus dans nos classes au mois de septembre étaient contents d'y être, pour la plupart. Certains seraient bien restés chez eux. Mais pour la plupart, le manque a créé l'envie de revenir à l'école et a remis en lumière la nécessité de la présence scolaire. À la question de la lassitude du projet, parce que ça dure depuis 10 ans, en travaillant ici, je sais ce que je vais faire en rentrant, c'est aller voir les directions, parce que de fait, le directeur m'a dit ça. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait l'occasion peut-être d'imaginer qu'on l'abandonne ? Parce que c'est une grosse mobilisation, où on prend beaucoup de temps pour ce projet, les élèves devraient travailler, tu le comprends, au mois de mai. Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude ? Ben en fait, non, quoi. Le manque surpasse cette lassitude, je pense. Et donc, voilà, on doit en rediscuter, effectivement, parce que c'est chaque fois des heures de cours. Hein. Enfin, vous savez comment elles sont précieuses et comme la plupart y tiennent. Comme c'est toujours difficile, on perd 4 heures sur une semaine, enfin, sur une année. Pour moi, ça me semble rien, en fait. C'est tellement rien du tout au regard du sens que ça apporte. Mais pour certains, les cours sont les cours, surtout au mois de mai. Et donc, il y a toujours cet équilibre à essayer de trouver qui n'est pas toujours simple. La question de l'épuisement qui se pose aussi pour les équipes qui organisent. Et donc, là aussi, l'idée, c'est vraiment avoir une grosse équipe qui permette à certains de dire « Moi, cette année, je fais rien. » Ou « Moi, cette année, je suis moins en forme. » Ou « Moi, cette année, j'ai eu des problèmes de santé. » Et donc, je ne fais rien. Tu ne dois pas compter sur moi. Mais comme on est 40 ou 50 à organiser, ce n'est pas très grave. Parce que ça permet de se reporter. On essaye chaque fois que les idées d'activité soient portées par 2 profs et 1 groupe d'élèves. Ainsi, si un des profs qui, à un moment donné, veut passer son tour 1 année, 2 années, 3 années, ça permet au deuxième de décoller un jeune qui arrive, on recrute beaucoup chez les jeunes, et d'avoir la pérennité des activités qui sont proposées. On a un gros souci de communication, ça reste le nerf de la guerre. Et là aussi, l'importance des jeunes est primordiale, je pense. Porter ce projet, juste nous les vieux de 40 ans, à un moment donné, on n'arrivait plus à suivre à comment communiquer avec ces jeunes. Il y a 7-8 ans, on a fait un groupe Facebook, c'était génial, les jeunes étaient sur Facebook. Maintenant, ils n'y sont plus, quoi. Et aujourd'hui, ils sont sur Insta ou Snap, et demain, ils seront sur autre chose, et on n'arrive pas à suivre. Les jeunes collègues, eux, suivent. Et eux arrivent, parce que nous, on pensait que les affiches, c'était suffisant, en gros, complètement naïvement, mais personne ne les lit, vous savez, vous connaissez le problème. On passe dans les classes, on communique pourquoi on travaille, ce qu'on va faire sur l'année, et puis les gens nous disent, on fait encore quoi cette année ? Enfin, les gens tombent des nues, enfin voilà, la communication est toujours très compliquée. Et donc ça, c'est une vraie question, et je pense qu'une piste de réponse, c'est les tranches d'âge différentes dans le projet. Parce que les jeunes nous disent, mais non, moi je gère le groupe Snap, je vais faire ça avec eux, la communication via Snap. Ok, moi j'ai pas de compte Snap, fais donc. Je crois que ça, c'est vraiment une chose à laquelle penser. Ce qui n'est pas naturel au départ, parce que l'équipe, le noyau de départ, c'est un noyau de profs qui s'entendent bien et qui sont générationnellement proches, quoi. Et donc, avec le temps, c'est clair que c'est devenu quelque chose d'incontournable. Et du coup, bah, les équipes grandissent tant vers les âges plus élevés que vers les âges plus faibles, quoi. Et ça, c'est une des clés de réussite, je pense. Et alors, je pense aussi que ce qui fait que ça fonctionne, ça a été un grand débat, c'est l'idée de partir concrètement avec un groupe d'élèves. Donc, on le fait tous les 3-4 ans. On est parti 2 fois à Madagascar, 1 fois au Sénégal, 1 fois au Togo. Et on a apporté beaucoup d'argent dans nos valises, mais on a aussi dépensé beaucoup d'argent pour y aller. Ça coûte environ 1 000 euros par élève. On essaye toujours de planifier longtemps à l'avance ces projets, comme ça, ça permet aux élèves de se dire, ben voilà, moi c'est mon projet, je dois trouver 50 euros par mois pendant 2 ans pour me payer mon billet d'avion et de quoi vivre là-bas. Le frein n'est pas social, quoi. J'ai un job, c'est un choix que je fais. Avec ce job, soit je m'achète la petite trottinette électrique dont je rêve, soit je peux partir. Bon, on n'est pas naïf, on sait bien que pour certaines familles, les jeunes ont des jobs pour aider la famille. Hein, donc, inévitablement, il y a ce frein malgré tout. Mais on essaye vraiment d'être très inclusif. Et je pense que d'année en année, quand je vois le profil des élèves, il y a surtout des filles. Il y a surtout des élèves du général, mais pas que. Il y a parfois un ou deux garçons qui viennent grossir les équipes. Parfois, j'aime pas. Il y a eu des équipes 100% féminines. Et il y a eu souvent des équipes mixtes au niveau social et au niveau des écoles, quoi, tant du technique que du général, ou du TQ même. Et donc on arrive quand même à aller chercher des élèves qui, intuitivement, se diraient bah « non, c'est trop cher pour moi ». Se pose aussi la question de l'empreinte écologique que représentent ces voyages. On part à 15, avec 3 profs. Bon, historiquement, c'était notre directeur qui partait avec nous, mais maintenant il est pensionné, donc on va devoir trouver quelqu'un d'autre qui chapeautera un peu... qui donnera aux parents, en tout cas, la certitude que les enfants sont en bonne main. Un directeur, ça a un effet un peu rassurant. 15 personnes qui partent, c'est 15 fois 1000 euros qu'on pourrait apporter au projet. Et c'est aussi 15 billets d'avion qui polluent, avec une grosse empreinte, hein, on ne se le cache pas. Mais la réflexion est la suivante, c'est que le fait d'avoir ceci... si j'arrive à passer le slide, voilà. Le fait d'avoir ceci, en fait, ça fait 15 ambassadeurs après dans l'école. Les profs qui sont partis, les élèves qui sont partis, qui après portent le projet, ça devient viscéral, quoi. Et donc, c'est clair que ça a un prix, mais en fait, l'effet d'entraînement que ça crée est très très important. Et là aussi, il faut réussir à trouver les personnes ressources qui sont partantes. C'est clair qu'on ne part pas avec un tour opérateur. Et donc, il faut trouver soit une association qui peut porter l'organisation sur place, il en existe énormément, soit on part un peu à l'aventure en sachant que sur place, on a une personne de contact et une personne fiable qui assure et notre sécurité et nos conditions de vie sur place spartiates, mais... malgré tout, tenable. À l'époque, on s'était déjà posé la question. Moi, je suis allée dans le voyage de 2012 à Madagascar avec les élèves. Les questions se soulevaient déjà, mais de voyage en voyage, on est plus persuadé que, on est de plus en plus persuadé qu'il faut partir. Pas tous les ans, parce que financièrement, ce serait une aberration, mais de temps en temps, avec un groupe d'élèves et un groupe de profs, ça fédère vraiment autour du projet et ça porte le projet. Tous les jeunes qui sont là ont fait des études maintenant, hein. On est parti en 2012. Il y en a pas mal qui ont fait des choix d'études logiques a posteriori. Je pense à une fille qui a fait droit et qui après travaille dans le droit des minorités dont vous parliez tout à l'heure. Je pense à 2 élèves qui ont fait... médecine ou infirmiers qui se sont spécialisés en maladies tropicales ou en coopération au développement. Donc ça les marque durablement, mais ça marque aussi durablement sur l'école. Voilà. Oui. On part à 3 profs avec 15 élèves et le directeur. 15 élèves et 3 profs. En fait, les conditions sanitaires sont toujours déplorables. Il faut dire ce qui est. Il y a toujours des malades, un tout petit peu en permanence. C'est jamais très très grave, on n'a jamais eu de catastrophe. Mais il y a toujours un prof ou l'autre qui est moins bien un jour ou l'autre, même peut-être 2 jours d'affilée. Et donc il faut quand même des équipes sérieuses au niveau des professeurs qui accompagnent évidemment. Et essayer de trouver une personne qui est déjà allée. Bon, là, c'est 3 projets africains. Il y a un projet sud-américain qui nous a été proposé. Mais il est clair qu'il faut, dans l'équipe, au moins quelqu'un qui a l'expérience du contexte africain ou du contexte latino-américain. Ne fût-ce que pour passer la frontière. Ne fût-ce que pour arriver avec les 15 passeports et savoir que le passage de frontière, ce n'est pas un truc qui se fait facilement. et qu'il faut pour pouvoir avancer et ne pas rester coincé indéfiniment à l'aéroport avec notamment de l'argent dans les valises qui est un... Ouais, voilà. Il faut comprendre comment ça fonctionne et pour comprendre comment ça fonctionne, je pense que dans l'équipe, il doit y avoir quelqu'un qui est déjà allé sur le continent africain, latino-américain. C'est les deux sur lesquels on a travaillé. Voilà. Je voudrais juste terminer en disant ceci. L'organisationnel a tendance à prendre le dessus, même dans ma présentation, je m'en rends compte en fait. Mais la question du sens, elle est centrale ici, dans les valeurs qu'on apporte à travers ce projet. Il y a parfois des classes très difficiles dont on ne sait pas faire grand-chose. Et finalement, les mobiliser autour de ce projet fait qu'il y a un petit déclic, un petit truc positif qui se passe et qui les met en valeur et qui nous impacte inévitablement en retour. Mais aussi au sein de l'école, en fait. Ce projet, il est fédérateur dans les classes, mais il est aussi fédérateur dans la salle des profs. Bon, il y a toujours des esprits grincheux, il y a toujours des critiques, et il faut pouvoir les accueillir. C'est pas très grave, c'est constructif la plupart du temps. Parfois, ça l'est un peu moins. Faut pouvoir se blinder un petit peu au fur et à mesure du temps. Quand je parlais d'épuisement, c'est vrai que les critiques non constructives, c'est quelque chose qui est assez épuisant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes. Oui ? Oui, bien sûr.